Democracy.
Democracy.
Démocratie.
La France, c'est ce que l'on appelle une république démocratique.
Où est la démocratie, mes chers collègues?
Non, la France, c'est plus une démocratie, là, on fait tous semblant.
C'est encore une fois surtout un régime en perdition.
Je gueule, je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil.
Révolte!
La République, c'est moi!
Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, j'ai envie de péter un abribus tous les jours.
Je pense que nous sommes en train de traverser la crise démocratique la plus grave que la France ait connue.
Une réforme des retraites maintenue envers et contre tous.
Un déferlement de 49-3.
La chaise vide de Matignon pendant la trêve olympique.
La France, pays des droits de l'homme, est qualifiée de démocratie défaillante.
Mais qu'en est-il vraiment?
Les gouvernements cultivent la politique de l'autruche face aux mobilisations.
Pendant que la répression policière étouffe la voix du peuple.
Contraints de trouver d'autres modes d'action, les militants écologistes désobéissent pour se faire entendre.
La défiance des citoyens envers ses représentants fait la courte échelle aux théories du complot.
Le monde politique, qui dresse barrières et obstacles aux femmes, demeure un royaume masculin.
Alors, manifester sert-il encore à quelque chose?
La désobéissance civile est-elle le dernier recours du peuple pour sauver la planète?
Une démocratie sans maintien de l'ordre est-elle imaginable?
Comment le complotisme attise-t-il le chaos politique?
Pourquoi les institutions démocratiques ferment-elles leurs portes aux femmes?
Immersion dans les entrailles de notre démocratie pour en comprendre les dérives.
Démocrash, une série documentaire en 5 épisodes, réalisée par les étudiants et étudiantes en journalisme de Sciences Po Rennes.
La manifestation, c'est affirmer le rapport de force, c'est aussi reprendre la rue.
En fait, on est, du point de vue de l'action collective, un peu dans une impasse.
Bah, une frustration, l'impression de ne pas être écouté, entendu.
On est là, même si mal pour le contrat, nous on est là.
Ou on tombe dans la désespérance, ou même carrément l'arrêt de toute envie, ou alors on devient violent.
Les retraités, les jeunes, les privés d'emploi, le public, le privé, va dire plus loin, y aller tous ensemble, et donner un signal fort à Macron, à la Macroneuse, au patronat et à tout leur soutien. Merci mes camarades, vive la lutte, vive le social.
La réforme des retraites. C'est contre cette proposition de loi de la majorité présidentielle que les Français ont usé de leur droit de manifestation au début de l'année 2023. Plus de 3 millions de citoyens manifestent les 7 et 23 mars. Au bout du compte, le gouvernement assène un 49-3 au nez et à la barbe des 14 journées de mobilisation qui ont regroupé 28 millions de manifestants. Le peuple se mobilise, mais le gouvernement joue la sourde oreille et le méprise.
Liberté fondamentale depuis la DDHC de 1789, la manifestation est inscrite dans le droit français depuis 1935.
Mais c'est surtout un rapport de force qui oppose la rue et le pouvoir, et qui passe son temps à basculer d'un côté, puis de l'autre du trottoir.
Depuis 1789, souvent la rue fait l'histoire. Elle est à l'origine de notre droit. La manifestation s'impose comme un mode de représentation.
Alors pourquoi la rue n'est-elle pas écoutée? Est-ce que le gouvernement a toujours fait celui qui regarde ailleurs? Comment évolue notre droit de manifester depuis 80 ans? Et surtout, la manifestation est-elle encore utile?
Vous écoutez La rue est à vous, le premier épisode de la série Démocrash, réalisé par les étudiantes et les étudiants du Master de journalisme de Sciences Po Rennes.
La professeure Danielle Tartakovsky est spécialiste de l'histoire sociale et politique du XXe siècle. Elle découpe l'histoire de la manifestation depuis les années 30 en trois séquences.
Mais à deux reprises en France, on a eu des crises politiques majeures, 34 et 68, où la crise s'est ouverte dans la rue et refermée par la rue, avec des manifestations en miroir qui ont permis de résoudre la crise dans le cadre du régime existant.
Première séquence donc, 1934-1968, le point central de ces deux crises politiques majeures, c'est la rue. Mai 68, la jeunesse et le monde ouvrier se révoltent. Puis c'est tout un pays qui se met en ordre de marche. Des mouvements d'une ampleur inédite. Sur les 16 millions de salariés français, ils sont 7 millions de grévistes.
Deuxième séquence de l'histoire des manifestations, Danielle Tartakovsky.
À partir de là, on a une seconde séquence qui débute en 83-84 et qui s'achève quelque part en 2002, durant lequel plus d'une dizaine de mobilisations collectives, passant par des manifestations de rue, vont venir à bout de lois et ou de projets de loi, et en général des ministres qui vont avec. La manifestation s'est affirmée en France comme une forme de référendum d'initiative populaire.
La manifestation comme une forme de référendum d'initiative populaire. En 1984, les catholiques se mobilisent pour la défense du financement de l'école privée et contre le projet de loi Savary.
2 millions de manifestants selon les organisateurs, 860 000 selon la préfecture de police. Au-delà de l'éternelle polémique des chiffres, l'enseignement catholique a incontestablement gagné hier son pari.
La rue s'impose, fait retirer le texte et pousse le ministre Savary à la démission.
En 1995, c'est déjà une réforme des retraites qui mobilise les manifestants. Le Premier ministre Alain Juppé s'attaque aux acquis des salariés d'EDF, de la SNCF et de la RATP. Résultat, la France est à l'arrêt pendant 3 semaines. Là, encore, le projet de loi est abandonné.
Les manifestants dans les rues, la police a chiffré leur nombre à 2000. Tous avaient un seul et même mot d'ordre, le retrait du plan Juppé et sa démission, organisée par la CGT-FO.
En bref, la rue est moins au centre des crises politiques dans cette séquence qu'en 1934 ou 1968, mais elle profite de l'instabilité au pouvoir pour marquer des points. Elle s'engouffre dans les failles créées par les cohabitations Mitterrand-Balladur, Mitterrand-Chirac et Chirac-Jospin. Entre 81 et 96, 9 premiers ministres et 13 gouvernements se succèdent, du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Une période d'instabilité à laquelle une réforme constitutionnelle met fin au début du siècle. Elle déséquilibre le rapport de force entre la rue et le pouvoir. Ça profite à l'exécutif et ça ouvre la troisième séquence.
Le basculement du septennat au quinquennat, avec l'inversion du calendrier législatif et les conséquences que l'on sait, c'est-à-dire qu'à partir de la réforme constitutionnelle jusqu'au mois de juin dernier, la cohabitation devient impossible.
On a parlé manifestations, émeutes, mais ces mobilisations sont historiquement accompagnées des grèves.
Le 20 mai 68, c'est une grève massive de 10 millions de personnes, mais ce n'est pas forcément une manifestation. Je suis Noline Cassanier, je suis professeure d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans. En 95, certes, il y a des manifestations, mais enfin, je pense que c'est surtout les grèves qui ont tout bloqué et qui ont fait que Juppé a dû céder.
En 1968, 7 millions de grévistes. En 1995, ils sont 6 millions. Et 28 ans plus tard, pour lutter contre une nouvelle réforme des retraites, des grèves, il n'y en a pas. Les journées de manifestation marchent seules. Dans cette troisième séquence, le système de lutte a changé. Pour comprendre ce phénomène, nous nous sommes rendus boulevard du Portugal, au siège de la CGT d'Ille-et-Vilaine.
Allô ?
Oui, bonjour Pierre Chapa, c'est Quentin Mallet à l'appareil. Nous sommes devant le bâtiment de la CGT, me semble-t-il.
Ok, ça.
Pierre Chapa, en charge de l'organisation des manifestations pour la CGT 35, évoque ce qui a manqué dans les manifestations de 2023.
Contrairement à 1995, où les manifestations étaient sans doute moins puissantes, mais c'est des grèves puissantes. Et on avait ce phénomène un peu nouveau, les gens venaient en manifestation, mais sans faire grève. Or, ce qui compte dans le rapport de force, notamment sur des questions purement sociales, comme la réforme des retraites, c'est vraiment l'arrêt de la production.
Une partie de l'explication se trouve dans le portefeuille des Français.
C'est le pouvoir d'achat, hein, ça je veux dire, faire un jour de grève, si je prends l'exemple d'un enseignant, ben, perdre 80 à 100 euros, voilà, c'est ça, faire grève, perdre de l'argent, et c'est les problématiques de pouvoir d'achat.
Pour trouver l'autre partie de l'explication, quittons Pierre Chapa quelques minutes et traversons la France vers l'Est.
Après un excellent bœuf bourguignon, on retrouve Dominique Andolfato, politologue spécialiste des syndicats.
Dans le monde du travail, historiquement, c'est la grève. Le conflit ouvert, c'est la grève. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Il suffit pas d'être dans son bureau quand on est secrétaire général de telle organisation, je sais pas, à Montreuil, et puis penser que voilà, on a un clavier devant soi, et puis hop, on appuie sur un bouton, grève, et puis le pays se met en grève. Ça se passe pas comme ça en réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, le syndicalisme français, il a des effectifs trop faibles. Il est présent dans des secteurs qui sont pas forcément représentatif de toute l'économie, enfin plutôt les secteurs publics ou quelques grandes entreprises, mais il a disparu. Dans la plupart des entreprises aujourd'hui, c'est le désert syndical.
En 1980, un salarié sur trois était syndiqué, contre 1 sur 10 en 2019. Pourquoi est-ce que les salariés ne se syndiquent plus ?
La plupart des salariés n'ont pas vraiment le sentiment que le syndicat, c'est quelque chose d'utile.
alors que dans le monde du travail, en fait, on n'a rien trouvé de mieux pour le moment pour, en quelque sorte, faire valoir ses droits, être tout simplement reconnu, que d'agir par le biais d'un syndicat. Il n'y a pas d'autre formule.
Il n'y a qu'une seule formule et les jeunes n'y adhèrent pas.
Chez les plus jeunes, on a le sentiment parfois qu'il y a un peu un rejet de l'histoire sociale et syndicale, enfin un certain désintérêt. Et donc, on ne va pas se tourner, on va pas. Les syndicalistes eux-mêmes le disent, ils ont beaucoup moins de jeunes qu'autrefois.
Les moins de 30 ans représentent 2,7% des salariés syndiqués. En plus, les syndicats patinent face aux modifications du salariat.
Mais l'ubérisation est une vraie question. Hein. Un livreur à vélo, se faire grève pour augmenter, ce qui n'est d'ailleurs pas son salaire hein, pour le coup, mais pour augmenter son revenu, c'est plus difficile de s'organiser quand il est tout seul avec son smartphone que dans une entreprise où il y a une tradition syndicale, etc. Voilà.
Dominique Andolfato pointe une autre raison à la désyndicalisation des salariés.
Il peut y avoir des discriminations. C'est-à-dire que être syndiqué, c'est pas forcément si facile que ça. Donc on a peur pour sa carrière, on a peur de sanctions de son employeur.
Si le Code du travail protège les salariés contre cette discrimination syndicale de certains patrons, dans les faits, c'est plus compliqué.
Le patronat français est un patronat de combat, clairement. Et on a de multiples exemples à la CGT de... On va ralentir la carrière, on va être mal vu, on va vous donner des horaires... plus difficile, etc.
En France, le droit d'adhérer à un syndicat est inscrit dans la Constitution. Pourtant, depuis sa première élection, Emmanuel Macron affaiblit les corps intermédiaires. Exemple, les ordonnances travail de 2017. Elles regroupent les trois instances représentatives du personnel,
CE, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et délégué du personnel,
en une seule organisation, le CSE. En gros, ça nous fait moins d'instances, donc moins de représentants, et surtout, moins de proximité entre syndicats et salariés. Certains membres de la majorité ne prennent même pas la peine de camoufler cette politique. Victor Albrecht est président du groupe Renaissance dans le département de l'Yonne.
Et je pense que dans sa manière de penser, le président s'est toujours, peut-être pas méfié, mais en tout cas toujours dévalorisé les corps intermédiaires. Ça, c'est vrai.
Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil.
Ok.
Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Tichel grand bourreau. Faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire.
Vous êtes toujours sur Canal B, vous écoutez La rue est à vous, premier épisode de la série Démocrache, réalisée par les étudiantes et étudiants en master de journalisme de Sciences Po Rennes.
Revenons au début de notre 21e siècle. En 2002, l'inversion du calendrier législatif conforte le pouvoir du président de la République. Plus de cohabitation possible. Exécutif et législatif se tiennent la main. Dans cette séquence de près de 20 ans, deux exceptions subsistent. Vous les avez ? Laissez-nous vous les présenter.
En 2006, Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin se disputent en coulisses la tête de l'UMP à un an des présidentielles. Pour réduire le chômage chez les jeunes, de Villepin annonce la création du CPE, le contrat de première embauche. Il introduit une période d'essai pour les CDI de 2 ans. 2 ans au cours desquels le jeune salarié peut être congédié à tout moment sans que l'employeur n'ait à s'en justifier.
J'ai l'honneur, monsieur le président, d'engager la responsabilité du gouvernement.
De Villepin bouscule l'ordre du jour pour faire passer son texte au plus vite. Le 49-3 face à la gauche très virulente. C'est sa stratégie. Où est l'exception, me direz-vous ? Devant ce passage en force, la rue s'embrase. 3 millions de personnes défilent pour demander le retrait de la réforme. Les syndicats de salariés rejoignent les étudiants et l'opinion publique bascule. Ils sont appuyés par une aide inhabituelle, celle de Nicolas Sarkozy, qui aurait volontairement laissé perdurer les émeutes dans Paris pour faire tomber de Villepin. Le 10 avril 2006, un mois après sa promulgation, le CPE est abandonné. Une exception qui rappelle l'instabilité politique des années 80 et 90 et dont profite la rue.
J'ai voulu agir vite, parce que la situation dramatique et le désespoir de beaucoup de jeunes l'exigent. Cela n'a pas été compris par tous. Je le regrette.
Deuxième exception, les gilets jaunes. 17 novembre 2018. Vêtus d'un gilet jaune, des centaines de milliers de Français font éclater leur colère. Le motif ? L'augmentation du prix du carburant. Rapidement, les revendications du mouvement s'élargissent. Amélioration du niveau de vie, démission du président de la République, rétablissement de l'impôt sur la fortune. Pour ces requêtes, les gilets jaunes occupent les rues et les ronds-points dans un mouvement qui prend l'exécutif de court. Si les gilets jaunes existent, c'est qu'on a atteint un point de non-retour.
La démocratie représentative, par définition, c'est toute une série de mandataires, de délégués qui sont censés représenter le peuple. Donc si tous ces gens-là n'arrivent plus à se faire entendre et qu'on met des 49-3 en série, à quoi ça sert? Donc votre député ne peut plus parler pour vous, quand bien même vous l'avez élu, vous êtes d'accord avec ses opinions, quand il vient sur le marché, vous papotez gentiment avec lui, mais après, finalement, il n'est pas écouté. Donc finalement, la seule solution, semble-t-il, aux gens, et c'est ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes, manifestement, c'est de trouver d'autres répertoires d'action.
En marge de la diffusion du documentaire sur l'après-Gilets jaunes, des goûts de lutte au cinéma Arvor, nous avons rencontré la réalisatrice Emmanuelle Rongoat, maîtresse de conférences en sciences politiques.
Merci à toi, merci à l'Arvor de nous accueillir.
Une des singularités du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il y avait, en tout cas au début du mouvement, quasi la majorité des contestataires, des gens qui étaient dans la rue, qui n'avaient jamais fait une manif, voilà, qui n'étaient jamais descendus dans la rue, qui n'étaient pas du tout des habitués des luttes sociales. Et c'est ça qui a aussi produit des formes d'innovation qui ont donné de la visibilité au mouvement très clairement, de la visibilité médiatique, de la visibilité politique, et qui, au début du mouvement, ça n'a pas duré longtemps, mais on provoquait un début de crise politique, le pouvoir a eu peur.
Premier impact, le 1er décembre 2018, les manifestants touchent l'Arc de Triomphe. Le monument est tagué, sa salle d'exposition pillée et dégradée. Deuxième impact, le même jour, au Puy-en-Velay, les Gilets jaunes mettent le feu à une aile de la préfecture. Pour la première fois, devant cette mobilisation imprévisible, le président prend peur. Alors, les Gilets jaunes ont-ils gagné ? Discours de délégitimation, durcissement de la répression. Ils se heurtent à la surdité de l'exécutif dans la suite du mouvement avant que le Covid ne vienne siffler prématurément la fin d'un match qui ne reprendra pas. Le pouvoir plie, mais ne rompt pas.
L'exemple qui suit est saisissant. Devant l'ampleur de la crise, des maires de communes rurales mettent à disposition de leurs administrés des cahiers de doléances. Plus de 200 000 contributions dans près de 20 000 cahiers répartis dans 17 000 mairies.
Qu'est-ce qu'on en a fait ?
Rien. Les cahiers de doléances ont été mis de côté, archivés puis oubliés. Aux grandes dames des citoyens qui les ont rédigés, des élus qui les ont initiés ou des chercheurs qui se battent pour qu'ils soient publiés. Du côté de la majorité, on cache à peine son mépris pour ces cahiers. Victor Albrecht, candidat défait aux législatives de 2024, est président du groupe Renaissance dans le département de l'Yonne.
Cahier de doléances, on peut en parler. On a eu un problème légal qui a fait qu'on en a détruit une partie parce que malheureusement dans la loi, il fallait soit les supprimer, soit les verser aux affiches départementales. Les historiens vont se pencher là-dessus et vous verrez qu'on ne trouvera rien d'intéressant là-dedans. Désolé, c'est des discussions de personnes souvent novices aux faits publics et donc qui pensent à des choses qui en fait existent déjà. Il n'y a ni solution là-dedans, ni choses que l'on ne sait pas déjà.
Des propos qui font réagir les députés Mickaël Boulou, Parti Socialiste.
Ça ne m'étonne pas qu'il ait perdu, hein. Je suis désolé de dire ça, mais enfin, on retrouve un peu d'arrogance, voire de mépris macroniste. Enfin, ça veut dire quoi, ça? Enfin, c'est... Dans ce cas-là, il fallait l'expliquer, plutôt que de les enterrer.
Et Marie Mesmer, LFI.
En fait, vous voyez ce mépris-là, ça montre que ces gens-là n'ont aucune considération pour la souveraineté du peuple. Si jamais les mesures existaient déjà, mais qu'ils les mettent dans les cahiers de doléances, c'est bien qu'en fait, ils n'ont pas l'impression que ces mesures existent et qu'elles leur changent la vie. Donc, c'est qu'il y a un problème du côté du politique.
Quels sont les risques pour notre démocratie ? Emmanuelle Rongoat.
Il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de désillusions. Et un des effets, ça a été de renforcer des formes de défiance à l'égard de la sphère politique, partisane, électorale, à l'égard du politique en général. Ça peut donner lieu à de la démobilisation ou des envies de renverser la table, en fait.
Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte, faut de l'attente pour Noël, faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant, faut dépenser ses petits sous, faut du réseau pour tes enfants, faut ressembler à des guignols, faut passer à la télé, faut rentrer dans les farandoles de ceux qui font le blé.
Vous êtes toujours sur Canal B, vous écoutez La Rue est tabou, premier épisode de la série Démocrache, réalisée par les étudiantes et étudiants en master de journalisme de Sciences Po Rennes.
Paraît qu'il faut virer des profs
Et puis les travailleurs sociaux, les fonctionnaires qui servent à rien, les infirmières à 1000 euros, faut que ça rapporte aux actionnaires.
2006 et 2019, deux exceptions, deux exemples de moments où le rapport de force a basculé du côté de la rue et de la démocratie. Un rapport de force pourtant de plus en plus déséquilibré.
Évidemment, l'apothéose, et c'était notre point de départ, la réforme des retraites. Ceux qui en parlent le mieux, c'est les manifestants eux-mêmes.
Moi, je vais prendre un allongé, s'il vous plaît. Donc, je m'appelle Morwena Gallet, j'ai 47 ans, je suis prof de français au collège Clenay, à Rennes. On a un gouvernement qui n'écoute plus, et même quand il y a des manifestations massives, celles contre la réforme des retraites, c'était de vrais succès de manifestation, quoi. Et ils ont balayé ça d'un revers de main. Tout descend sur le peuple, les choix politiques, l'économie qui influe sur le politique. Enfin, c'est-à-dire que le peuple devient juste réceptacle de lois qui vont contre ses envies.
Certains secteurs d'activité se révèlent même trop faibles pour peser dans le rapport de force.
En plus, je suis prof, donc le milieu des profs, c'est un milieu un peu gentil. On est sage. On est très très sage. Et quand on est trop gentil, ça marche pas.
Noéline Castagné, professeure en histoire contemporaine, embraye.
Les grèves, déjà, il faut être sur des secteurs qui bloquent. Et ensuite, il faut qu'elles soient suffisamment importantes en nombre. Sinon, ça sert à rien. Je vous dis, même si tous les enseignants se mettaient en grève, je pense pas que ça change grand-chose.
Le 5 décembre dernier, la fonction publique se met en grève et regroupe 5000 manifestants dans la rue de la ville. Parmi eux, Fabien, étudiant en histoire.
Moi, je pense que le rapport de force est super inégal parce qu'actuellement, une manifestation, ça reste juste une sorte de fait divers. Alors que c'est pas anodin que des personnes s'organisent et se mobilisent sur une même journée, sur un même temps, sur un même lieu, pour une même cause.
Revenons au cinéma Arvor avec Emmanuel Rungwat.
Et c'est à mon avis une tactique assez dangereuse aussi de la part des gouvernants de délégitimer la protestation comme mode de participation. Pour moi, la protestation, c'est un mode de participation politique qui est intéressant, tout aussi intéressant que le vote. Il y a des gouvernements qui avaient cette considération-là. Bon, c'est pas du tout la culture politique des 10 dernières années, qui est plutôt une culture politique de délégitimation qui va considérer que c'est pas la rue qui gouverne.
Il y a des gouvernements qui avaient plus de considération pour le peuple. C'est aussi l'avis du député socialiste Michaël Boulou.
L'année dernière, on a Emmanuel Macron qui est tellement persuadé qu'il a raison, qui se dit « Ok, l'opinion publique a une large position contre ma réforme, mais je suis tellement persuadé que c'est ça qu'il faut faire, je vais, entre guillemets, je vais y aller à fond, je ne vais pas en tenir compte. »
Sa collègue, Marie Mesmer, voit dans cette surdité une stratégie politique bien précise.
C'est stratégique, en fait, hein, de fermer les yeux, de faire comme s'ils ne voyaient pas, et de passer à côté, justement, des revendications. Et voilà, ils font comme si rien n'existait, et ils avancent, coûte que coûte.
Le danger pour la démocratie, c'est que la résignation gagne les rangs des manifestants, et surtout des jeunes.
La dernière victoire, c'est 2006, c'est le CPE. Donc maintenant, on va arriver, ça fait presque 20 ans. C'est-à-dire qu'on a des générations entières de jeunes étudiants ou de jeunes apprentis, etc., qui n'ont jamais vécu une victoire sociale.
Nous, notre génération, c'est sûr qu'elle n'a pas beaucoup de victoires. Et puis, même, je pense que ça doit aussi faire du mal à plein de gens plus âgés, sans mode, bah, en fait, on n'y arrive plus. Et il n'y a rien qui change, puisque finalement, on retourne toujours dans la rue.
Mais manifester, c'est pas seulement gagner le rapport de force ou marquer des points face aux politiques. Certaines mobilisations ont d'autres objectifs.
Maintenant, il y a différents types de manifestations aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi des manifestations qui sont juste là pour pointer et rendre visibles des problèmes. Celles-là, je pense qu'elles sont toujours efficaces. Hein. Tout ce qui est manifestations féministes, marche pour le climat, des choses comme ça.
Les manifestations, ça permet aussi de construire le groupe, de souder le groupe. Donc ça ne se résume pas dans l'effet court, dans le champ, parlementaire.
Il y a une énergie, en fait. Dans les manifestations, de se retrouver, en soi, de voir qu'on n'est pas seul. Je pense que c'est important aussi. Dans un monde qui parfois cultive l'individualisme, les manifestations sont aussi un moyen de se retrouver sur un projet collectif.
Ouais, j'espère que ça sert, qu'on nous voit, qu'on nous entende, que les gens sont là et que ça nous rassure de voir du collectif aussi là-dedans et de montrer qu'on est là et qu'on existe et qu'on continue d'y aller, même si peut-être que effectivement la question se pose de est-ce que ça sert encore, mais au moins on est là, quoi.
Alors, est-ce que ça marche ?
À quoi ça sert de manifester ?
Mesurer l'efficacité d'une mobilisation, selon si des lois sont promulguées ou abrogées, c'est une approche incomplète. Et si la surdité des gouvernements nous donne un aperçu du déni démocratique actuel, certaines manifestations ont des effets différés quand d'autres cherchent à imposer des sujets à l'agenda, à faire voir, à montrer. Ce qui est sûr, c'est que ça fait du bien à ceux qui battent le pavé.
Ça marche pas, mais ça fait du bien. C'est-à-dire que ce sont des moments un peu festifs où on voit des gens qu'on voit pas ailleurs. Moi, en manifestation, je croise toujours des dizaines de potes, quoi, que je n'ai pas le temps de voir.
La manifestation est un droit français, une spécificité française même, que les pays étrangers nous envient. La manifestation, c'est le peuple qui s'exprime quand il ne se sent plus ou mal représenté. C'est un droit qui doit être préservé et protégé.
Mais devant le constat d'un rapport de force déséquilibré et de gouvernements qui foncent coûte que coûte, comment faire pour ne pas désespérer?
Être militant et militante, c'est... on est plus heureux et plus joyeux.
Quand il était minuit dans le siècle, ben, y a des gens qui ont continué à tenir le flambeau et puis après... ben... à un moment, ça a été mieux, donc ça va mieux aller un jour. Et c'est là où il faut avoir une force de caractère, une force de conviction, bah de ne pas laisser tomber, parce que des périodes comme ça, il y en a eu d'autres, en fait. Il y a une chanson que j'aime bien chanter qui s'appelle « La semaine sanglante ». C'est une chanson qui a été écrite après la Commune de Paris, hein, qui est une référence dans l'histoire du mouvement ouvrier français. Et la chanson a dit « Les mauvais jours finiront ». Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront.
Les mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront.
C'était La rue est tabou, premier épisode de la série Démocrache, réalisé par Zara Windy, Dorian Vidal et Quentin Mallet.
Dans cet épisode, vous avez pu entendre The Myth of a Nation de Secession Studios, un extrait du JT de l'ORTF du 3 juin 1968, un extrait de l'INA du 25 juin 1984, un autre extrait de l'INA, cette fois du 5 décembre 1995, le titre Respire de Gael Faye, Crystal Lake du compositeur norvégien Bjørn Lien.
Le Wadi, un morceau de la bande originale du film Kaamelott d'Alexandre Astier. Deux extraits d'une archive de l'INA du 10 avril 2006. L'instrumental du morceau « L'odeur de l'essence » d'Orelsan. J'accuse de Saez. Le boléro de Ravel, retravaillé par le compositeur Thomas Roussel. Et la chanson révolutionnaire « La semaine sanglante » de Jean-Baptiste Clément, interprétée par Marc Augeret.
Nous voilà rendus. Demain, Chiara Oduro, Luna Baudouin-Goujon et Robin Peter vous plongeront dans la désobéissance civile dans l'épisode « Désobéir au droit et à l'œil ». Bonne journée sur Canal B.